Lettre 10. À Saint-Preux, du baron d'Étanges, dans laquelle était le précédent billet.
S'il peut rester dans l'âme d'un suborneur quelques sentiments d'honneur et d'humanité, répondez à ce billet qu'une malheureuse dont vous avez corrompu le cœur et qui ne serait plus, si j'osais soupçonner, qu'elle l'eût porté plus loin l'oubli d'elle-même. Je m'étonnerais peu que la même philosophie qui lui a appris à se jeter à la tête du premier venu lui apprenne encore à désobéir à son père. Pensez-y cependant. J'aime à prendre en toute occasion les voies de la douceur et de l'honnêteté quand j'espère qu'elles peuvent suffire. Mais si j'en veux bien user avec vous, ne croyez pas que j'ignore comment se venge l'honneur d'un gentilhomme offensé par un homme qui ne l'est pas.
Réponse de Saint-Preux au baron d'Étanges.
Épargnez-vous, monsieur, des menaces vaines qui ne m'effraient point et d'injustes reproches qui ne peuvent m'humilier. Sachez qu'entre deux personnes de même âge, il n'y a d'autre suborneur que l'amour et qu'il ne vous appartiendra jamais d'avilir un homme que votre fille honora de son estime. Quel sacrifice osez-vous m'imposer et à quel titre l'exigez-vous? Est-ce à l'auteur de tous mes maux qu'il faut immoler mon dernier espoir? Je veux respecter le père de Julie, mais qu'il daigne être le mien s'il faut que je lui apprenne à lui obéir. Non, non, monsieur, quelque opinion que vous ayez de vos procédés, il ne m'oblige point à renoncer pour vous à des droits si chers et si bien mérités de mon cœur. Vous faites le malheur de ma vie. Je ne vous dois que la haine, et vous n'avez rien à prétendre de moi. Julie a parlé, voilà mon consentement. Ah, qu'elle soit toujours obéie, un autre la possédera, mais j'en serai plus digne d'elle. Si votre fille eût daigné me consulter sur les bornes de votre autorité, ne doutez pas que je lui eusse appris à résister à vos prétentions injustes. Quel que soit l'empire dont vous abusez, mes droits sont plus sacrés que les vôtres. La chaîne qui nous lie est la borne du pouvoir paternel. Même devant les tribunaux humains, quand vous osez réclamer la nature, c'est vous seul qui bravez ses lois. N'alléguez pas non plus cet honneur si bizarre et si délicat que vous parlez de venger. Nul ne l'offense que vous-même. Respectez le choix de Julie, et votre honneur est en sûreté, car mon cœur vous honore malgré vos outrages, et malgré les maximes gothiques, l'alliance d'un honnête homme n'en déshonora jamais un autre. Si ma présomption vous offense, attaquez ma vie, je ne la défendrai jamais contre vous. Au surplus, je me soucie fort peu de savoir en quoi consiste l'honneur d'un gentilhomme, mais quant à celui d'un homme de bien, il m'appartient. Je sais le défendre, et je le conserverai pur et sans tache jusqu'au dernier soupir. Allez, père barbare et peu digne d'un nom si doux, méditez l'affreux parricide, tandis qu'une fille tendre et soumise immole son bonheur à vos préjugés. Vos regrets me vengeront un jour des maux que vous me faites, et vous sentirez trop tard que votre haine aveugle et dénaturée ne vous fût pas moins funeste qu'à moi. Je serai malheureux, sans doute, mais si jamais la voix du sang s'élève au fond de mon cœur, combien vous le serez plus encore d'avoir sacrifié à des chimères l'unique fruit de vos entrailles, unique au monde en beauté, en mérite, en vertu, et pour qui le ciel, prodigue de ses dons, n'oubliera rien qu'un meilleur père. Billet inclus dans la précédente lettre. Je rends à Julie d'Étanges le droit de disposer d'elle-même et de donner sa main sans consulter son cœur. S.G.
Lettre 12. De Julie à Saint-Preux.
Je voulais vous écrire la scène qui vient de se passer et qui a produit le billet que vous avez dû recevoir. Mais mon père a pris ses mesures si justes qu'elle n'a fini qu'un moment avant le départ du courrier. Sa lettre est sans doute arrivée à temps à la poste. Il n'en peut être de même de celle-ci. Votre résolution sera prise et votre réponse partie avant qu'elle vous parvienne. Ainsi, tout détail serait désormais inutile. J'ai fait mon devoir, vous ferez le vôtre, mais le sort nous accable, l'honneur nous trahit, nous serons séparés à jamais, et pour comble d'horreur, je vais passer dans les... Hélas, j'ai pu vivre dans les tiens. Ô devoir, à quoi sers-tu? Ô providence, il faut gémir et se taire. La plume échappe de ma main. J'étais incommodée depuis quelques jours. L'entretien de ce matin m'a prodigieusement agitée. La tête et le cœur me font mal. Je me sens défaillir. Le ciel aurait-il pitié de mes peines? Je ne puis me soutenir. Je suis forcée à me mettre au lit et me console dans l'espoir de n'en point relever. Adieu, mes uniques amours. Adieu, pour la dernière fois, chère et tendre amie de Julie. Ah, si je ne dois plus vivre pour toi, n'ai-je pas déjà cessé de vivre?
Lettre 13 de Julie à Madame d'Orbe.
Il est donc vrai, chère et cruelle amie, que tu me rappelles à la vie et à mes douleurs. J'ai vu l'instant heureux où j'allais rejoindre la plus tendre des mères. Tes soins inhumains m'ont enchaînée pour la pleurer plus longtemps. Et quand le désir de la suivre m'arrache à la terre, le regret de te quitter m'y retient. Si je me console de vivre, c'est par l'espoir de n'avoir pas échappé tout entière à la mort. Ils ne sont plus ces agréments de mon visage que mon cœur a payé si cher. La maladie dont je sors m'en a délivré. Cette heureuse perte ralentira l'ardeur grossière d'un homme assez dépourvu de délicatesse pour m'oser épouser sans mon aveu. Ne trouvant plus en moi ce qui lui plut, il se souciera peu du reste. Sans manquer de parole à mon père, sans offenser l'ami dont il tient la vie, je saurai rebuter cet importun. Ma bouche gardera le silence, mais mon aspect parlera pour moi. Son dégoût me garantira de sa tyrannie, et il me trouvera trop laide pour daigner me rendre malheureuse. Ah, cousine chère, tu connus un cœur plus constant et plus tendre qui ne se fût pas ainsi rebuté. Son goût ne se bornait pas aux traits et à la figure. C'était moi qui l'aimais, et non pas mon visage. C'était par tout notre être que nous étions unis l'un à l'autre. Et tant que Julie eût été la même, la beauté pouvait fuir, l'amour fut toujours demeuré. Cependant il a pu consentir, l'ingrat. Il l'a dû, puisque j'ai pu l'exiger. Qui est-ce qui retient par leurs paroles ceux qui veulent retirer leur cœur? Ai-je donc voulu retirer le mien? L'ai-je fait? Ô Dieu, faut-il que tout me rappelle incessamment un temps qui n'est plus et des feux qui ne doivent plus être? J'ai beau vouloir arracher de mon cœur cette image chérie, je l'y sens trop fortement attachée. Je le déchire sans le dégager et mes efforts pour en effacer un si doux souvenir ne font que l'y graver davantage. Oserais-je te dire un délire de ma fièvre, qui, loin de s'éteindre avec elle, me tourmente encore plus depuis ma guérison? Oui, connais et plains l'égarement d'esprit de ta malheureuse amie, et rends grâces au ciel d'avoir préservé ton cœur de l'horrible passion qui le donne. Dans un des moments où j'étais le plus mal, je crus, durant l'ardeur du redoublement, voir à côté de mon lit cet infortuné, non tel qu'il charmait jadis mes regards durant le court bonheur de ma vie, mais pâle, défait, mal en ordre, et le désespoir dans les yeux. Il était à genoux, il prit une de mes mains et, sans dégoûter de l'état où elle était, sans craindre la communication d'un venin si terrible, il la couvrait de baisers et de larmes. À son aspect, j'éprouvais cette vive et délicieuse émotion que me donnait quelquefois sa présence inattendue. Je voulus m'élancer vers lui, on me retint. Tu l'arrachas de ma présence, et ce qui me toucha le plus vivement, ce furent ces gémissements que je crus entendre à mesure qu'il s'éloignait. Je ne puis te représenter l'effet étonnant que ce rêve a produit sur moi. Ma fièvre a été longue et violente, j'ai perdu la connaissance durant plusieurs jours, j'ai souvent rêvé à lui dans mes transports, mais aucun de ces rêves n'a laissé dans mon imagination des impressions aussi profondes que celles de ce dernier. Elle est telle qu'il m'est impossible de l'effacer de ma mémoire et de mes sens. À chaque minute, à chaque instant, il me semble le voir dans la même attitude. Son air, son habillement, son geste, son triste regard frappent encore mes yeux. Je crois sentir ses lèvres se presser sur ma main. Je la sens mouillée de ses larmes. Les sons de sa voix plaintive me font tressaillir. Je le vois entraîné loin de moi. Je fais effort pour le retenir encore. Tout me retrace une scène imaginaire avec plus de force que les événements qui me sont réellement arrivés. J'ai longtemps hésité à te faire cette confidence. La honte m'empêche de te la faire de bouche, Mais mon agitation, loin de se calmer, ne fait qu'augmenter de jour en jour, et je ne puis plus résister au besoin de t'avouer ma folie. Ah, qu'elle s'empare de moi tout entière, que ne puis-je achever de perdre ainsi la raison, puisque le peu qui m'en reste ne sert plus qu'à me tourmenter. Je reviens à mon rêve. Ma cousine, raille-moi, si tu veux, de ma simplicité, mais il y a dans cette vision je ne sais quoi de mystérieux qui la distingue du délire ordinaire. Est-ce un pressentiment de la mort du meilleur des hommes? Est-ce un avertissement qu'il n'est déjà plus? Le ciel daigne-t-il me guider au moins une fois et m'invite-t-il à suivre celui qu'il me fit aimer? Hélas, l'ordre de mourir sera pour moi le premier de ses bienfaits. J'ai beau me rappeler tous ces vains discours dont la philosophie amuse les gens qui ne sentent rien. Ils ne m'en imposent plus, et je sens que je les méprise. On ne voit point les esprits, je le veux croire, mais deux âmes si étroitement unies ne sauraient-elles avoir entre elles une communication immédiate, indépendante du corps et des sens? L'impression directe que l'une reçoit de l'autre ne peut-elle pas la transmettre au cerveau et recevoir de lui par contre-coup les sensations qu'elle lui a données? Pauvre Julie, que d'extravagance, que les passions nous rendent crédules, et qu'un cœur vivement touché se détache avec peine des erreurs mêmes qu'il aperçoit.
Lettre 14. Réponse de Madame d'Orbe à Julie.
Ah, fille trop malheureuse et trop sensible, n'es-tu donc née que pour souffrir? Je voudrais en vain t'épargner des douleurs. Tu sembles les chercher sans cesse, et ton ascendant est plus fort que tous mes soins. À tant de vrais sujets de peine, n'ajoute pas au moins des chimères, et puisque ma discrétion t'est plus nuisible qu'utile, sors d'une erreur qui te tourmente. Peut-être la triste vérité te sera-t-elle encore moins cruelle. Apprends donc que ton rêve n'est point un rêve, que ce n'est point l'ombre de ton ami que tu as vu, mais sa personne, et que cette touchante scène, incessamment présente à ton imagination, s'est passée réellement dans ta chambre, le surlendemain du jour où tu fus le plus mal. La veille, je t'avais quitté assez tard, et M. d'Orbe, qui voulut me relever auprès de toi cette nuit-là, était prêt à sortir, quand tout à coup nous vîmes entrer brusquement et se précipiter à nos pieds ce pauvre malheureux, dans un état à faire pitié. Il avait pris la poste à la réception de ta dernière lettre. Courant jour et nuit, il fit la route en 3 jours. Et ne s'arrêta qu'à la dernière poste en attendant la nuit pour entrer en ville. Je te l'avoue, à ma honte, je fus moins prompte que M. d'Orbe à lui sauter au cou. Sans savoir encore la raison de son voyage, j'en prévoyais la conséquence. Tant de souvenirs amers, ton danger, le sien, le désordre où je le voyais, tout empoisonnait une si douce surprise, et j'étais trop saisie pour lui faire beaucoup de caresses. Je l'embrassais pourtant avec un serrement de cœur qu'il partageait et qui se fit sentir réciproquement par de muettes étreintes, plus éloquentes que les cris et les pleurs. Son premier mot fut « Que fait-elle? Ah, que fait-elle? Donnez-moi la vie ou la mort. » Je compris alors qu'il était instruit de ta maladie, et croyant qu'il n'en ignorait pas non plus l'espèce, j'en parlais sans autre précaution que d'atténuer le danger. Sitôt qu'il sut que c'était la petite virole, il fit un cri et se trouva mal. La fatigue et l'insomnie, jointes à l'inquiétude d'esprit, l'avaient jeté dans un tel abattement qu'on fut longtemps à le faire revenir. À peine pouvait-il parler. On le fit coucher. Vaincu par la nature, il dormit 12 heures de suite, mais avec tant d'agitation qu'un pareil sommeil devait plus s'épuiser que réparer ses forces. Le lendemain, nouvel embarras, il voulait te voir absolument. Je lui opposai le danger de te causer une révolution. il offrit d'attendre qu'il n'y eût plus de risque. Mais son séjour même en était un terrible. J'essayais de le lui faire sentir. Il me coupa durement la parole. « Gardez votre barbare éloquence, me dit-il d'un ton d'indignation. C'est trop l'exercer à ma ruine. N'espérez pas me chasser encore, comme vous fîtes à mon exil. Je viendrai 100 fois du bout du monde pour la voir un seul instant. Mais je jure, par l'auteur de mon être, ajouta-t-il impétueusement, que je ne partirai point d'ici sans l'avoir vue. Éprouvons une fois si je vous rendrai pitoyable ou si vous me rendrez parjure. » Son parti était pris. Monsieur d'Orbe fut d'avis de chercher les moyens de le satisfaire pour le pouvoir renvoyer avant que son retour fût découvert, car il n'était connu dans la maison que du seul Hans dont j'étais sûr, et nous l'avions appelé devant nos gens d'un autre nom que le sien. Je lui promis qu'il te verrait la nuit suivante, à condition qu'il ne resterait qu'un instant, qu'il ne te parlerait point, et qu'il repartirait le lendemain, avant le jour. J'en exigeais sa parole. Alors je fus tranquille, je laissai mon mari avec lui, et je retournai près de toi. Je te trouvais sensiblement mieux. L'éruption était achevée, le médecin me rendit le courage et l'espoir. Je me concertai d'avance avec Babi. Et le redoublement, quoique moindre, t'ayant encore embarrassé la tête, je pris ce temps pour écarter tout le monde et faire dire à mon mari d'amener son hôte, jugeant qu'avant la fin de l'accès tu serais moins en état de le reconnaître. Nous eûmes toutes les peines du monde à renvoyer ton désolé père, qui chaque nuit s'obstinait à vouloir rester. Enfin, je lui dis en colère qu'il n'épargnerait la peine de personne, que j'étais également résolu à veiller, et qu'il savait bien, tout père qu'il était, que sa tendresse n'était pas plus vigilante que la mienne. Il partit à regret, nous restâmes seuls. Monsieur d'Orbe arriva sur les 11 heures et me dit qu'il avait laissé ton ami dans la rue. Je l'allais chercher. Je le pris par la main. Il tremblait comme la feuille. En passant dans l'antichambre, les forces lui manquèrent. Il respirait avec peine et fut contraint de s'asseoir. Alors, démêlant quelques objets à la faible lueur d'une lumière éloignée, « Oui, dit-il avec un profond soupir, je reconnais les mêmes lieux. Une fois en ma vie, je les ai traversés, à la même heure, avec le même mystère. J'étais tremblant comme aujourd'hui. Le cœur me palpitait de même. Ô téméraire, j'étais mortel et j'osais goûter. Que vais-je voir maintenant dans ce même asile où tout respirait la volupté dont mon âme était enivrée, dans ce même objet qui faisait et partageait mes transports? L'image du trépas, un appareil de douleur, la vertu malheureuse et la beauté mourante. Chère cousine, j'épargne à ton pauvre cœur le détail de cette attendrissante scène. Il te vit et se tut, il l'avait promis. Mais quel silence! Il se jeta à genoux, il baisait tes rideaux en sanglotant, il élevait les mains et les yeux, il poussait de sourds gémissements, il avait peine à contenir sa douleur et ses cris. Sans le voir, tu sortis machinalement une de tes mains. Il s'en saisit avec une espèce de fureur. Les baisers de feu qu'il appliquait sur cette main malade t'éveillèrent mieux que le bruit et la voix de tout ce qui t'environnait. Je vis que tu l'avais reconnu, et malgré sa résistance et ses plaintes, je l'arrachai de la chambre à l'instant, espérant éluder l'idée d'une si courte apparition par le prétexte du délire. Mais voyant ensuite que tu ne m'en disais rien, je crus que tu l'avais oublié. Je défendis à Babi de t'en parler, et je sais qu'elle m'a tenu parole. Vaine prudence que l'amour a déconcertée et qui n'a fait que laisser fermenter un souvenir qu'il n'est plus temps d'effacer. Il partit, comme il l'avait promis, et je lui fis jurer qu'il ne s'arrêterait pas au voisinage. Mais, ma chère, ce n'est pas tout. Il faut achever de te dire ce qu'aussi bien tu ne pourrais ignorer longtemps. Mylord Edward passa 2 jours après. Il se pressa pour l'atteindre. Il le joignit à Dijon et le trouva malade. L'infortuné avait gagné la petite vérole. Il m'avait caché qu'il ne l'avait point eue et je te l'avais menée sans précaution. Ne pouvant guérir ton mal, il le voulut partager. En me rappelant la manière dont il baisait ta main, je ne puis douter qu'il ne se soit inoculé volontairement. On ne pouvait être plus mal préparé, mais c'était l'inoculation de l'amour. Elle fut heureuse. Ce père de la vie l'a conservé au plus tendre amant qui fut jamais. Il est guéri. Et suivant la dernière lettre de Mylord Edward, ils doivent être actuellement repartis pour Paris. Voilà, trop aimable cousine, de quoi bannir les terreurs funèbres qui t'alarmeraient sans sujet. Depuis longtemps, tu as renoncé à la personne de ton ami et sa vie est en sûreté. Ne songe donc qu'à conserver la tienne et à t'acquitter de bonne grâce du sacrifice que ton cœur a promis à l'amour paternel. Cesse enfin d'être le jouet d'un vain espoir et de te repaître de chimères. Tu te presses beaucoup d'être fière de ta laideur. Sois plus humble, crois-moi, que tu n'es encore que trop sujet de l'être. Tu as essuyé une cruelle atteinte, mais ton visage a été épargné. Ce que tu prends pour des cicatrices ne sont que des rougeurs qui seront bientôt effacées. Je fus plus maltraitée que cela et cependant, tu vois, que je ne suis pas trop mal encore. Mon ange, tu resteras jolie en dépit de toi et l'indifférent Volmar, que 3 ans d'absence n'ont pu guérir d'un amour conçu dans 8 jours, s'en guérira-t-il en te voyant à toute heure? Oh, si ta seule ressource est de déplaire, que ton sort est désespéré.
Lettre 15 de Julie à Saint-Preux.
C'en est trop, c'en est trop. Ami, tu as vaincu. Je ne suis point à l'épreuve de tant d'amour. Ma résistance est épuisée. J'ai fait usage de toutes mes forces. Ma conscience m'en rend le consolant témoignage. Que le ciel ne me demande point compte de plus qu'il ne m'a donné. Ce triste cœur que tu achetas tant de fois et qui coûta si cher au tien, t'appartient sans réserve. Il fut à toi du premier moment où mes yeux te virent, il te restera jusqu'à mon dernier soupir. Tu l'as trop bien mérité pour le perdre, et je suis lasse de servir aux dépens de la justice une chimérique vertu. Oui, tendre et généreux amant, ta Julie sera toujours tienne, elle t'aimera toujours. Il le faut, je le veux, je le dois. Je te rends l'empire que l'amour t'a donné, il ne te sera plus ôté. C'est en vain qu'une voix mensongère murmure au fond de mon âme. Elle ne m'abusera plus. Que sont les vains devoirs qu'elle m'oppose contre ceux d'aimer à jamais ce que le ciel m'a fait aimer? Le plus sacré de tous n'est-il pas envers toi? N'est-ce pas à toi seul que j'ai tout promis? Le premier vœu de mon cœur ne fut-il pas de ne t'oublier jamais? Et ton inviolable fidélité n'est-elle pas un nouveau lien pour la mienne? Ah, dans le transport d'amour qui me rend à toi, mon seul regret est d'avoir combattu des sentiments si chers et si légitimes. Nature, ô douce nature, reprends tous tes droits. J'abjure les barbares vertus qui t'anéantissent. Les penchants que tu m'as donnés seront-ils plus trompeurs qu'une raison qui m'égara tant de fois? Respecte ces tendres penchants, mon aimable ami. Tu leur dois trop pour les haïr, mais souffres-en le cher et doux partage. Souffre que les droits du sang et de l'amitié ne sois pas éteint par ceux de l'amour. Ne pense point que pour te suivre, J'abandonne jamais la maison paternelle. N'espère point que je me refuse au lien que m'impose une autorité sacrée. La cruelle perte de l'un des auteurs de mes jours m'a trop appris à craindre d'affliger l'autre. Non, celle dont il attend désormais toute sa consolation ne contristera pas son âme accablée d'ennui. Je n'aurai point donné la mort à tout ce qui me donna la vie. Non, non, je connais mon crime et ne puis le haïr. Devoir, honneur, vertu, tout cela ne me dit plus rien. Mais pourtant je ne suis point un monstre, je suis faible et non dénaturé. Mon parti est pris, je ne veux désoler aucun de ceux que j'aime. Qu'un père esclave de sa parole et jaloux d'un vain titre dispose de ma main qui l'a promise, que l'amour seul dispose de mon cœur, que mes pleurs ne cessent de couler dans le sein d'une tendre amie, que je sois vile et malheureuse, mais que tout ce qui m'est cher soit heureux et content s'il est possible. Formez tous trois ma seule existence, et que votre bonheur me fasse oublier ma misère et mon désespoir.
Lettre 16. Réponse de Saint-Preux à Julie.
Nous renaissons, ma Julie. Tous les vrais sentiments de nos âmes reprennent leur cours. La nature nous a conservé l'être, et l'amour nous rend à la vie. En doutais-tu? L'osas-tu croire de pouvoir m'ôter ton cœur? Va, je le connais mieux que toi, ce cœur que le ciel a fait pour le mien. Je les sens joints par une existence commune qu'ils ne peuvent perdre qu'à la mort. Dépend-il de nous de les séparer, ni même de le vouloir? Tiennent-ils l'un à l'autre par des nœuds que les hommes aient formés et qu'ils puissent rompre? Non, non, Julie, si le sort cruel nous refuse le doux nom d'époux, rien ne peut nous ôter celui d'amant fidèle. Il sera consolation de nos tristes jours, et nous l'emporterons au tombeau. Ainsi nous recommençons de vivre pour recommencer de souffrir, et le sentiment de notre existence n'est pour nous qu'un sentiment de douleur. Infortunés, que sommes-nous devenus? Comment avons-nous cessé d'être ce que nous fûmes? Où est cet enchantement de bonheur suprême? Où sont ces ravissements exquis dont les vertus animaient nos feux? Il ne nous reste que notre amour. L'amour seul reste, et ses charmes se sont éclipsés. Fille trop soumise, amante sans courage, tous nos maux nous viennent de tes erreurs. Hélas, un cœur moins pur t'aurais bien moins égaré. Oui, c'est l'honnêteté du tien qui nous perd. Les sentiments droits qui le remplissent en ont chassé la sagesse. Tu as voulu concilier la tendresse filiale avec l'indomptable amour. En te livrant à la fois à tous tes penchants, tu les confonds au lieu de les accorder et deviens coupable à force de vertu. Oh Julie, quel est ton inconcevable empire? Par quel étrange pouvoir tu fascines ma raison? Même en me faisant rougir de nos feux, tu te fais encore estimer par tes fautes. Tu me forces de t'admirer en partageant tes remords. Des remords? Était-ce à toi d'en sentir? Toi que j'aimais? Toi que je ne puis cesser d'adorer? Le crime pourrait-il approcher de ton cœur? Cruel, en me le rendant, ce cœur qui m'appartient, rends-le-moi tel qu'il me fut donné. Que m'as-tu dit? Qu'oses-tu me faire entendre? Toi, passer dans les bras d'un autre? Un autre te posséder? N'être plus à moi? Ou, pour comble d'horreur, n'être pas à moi seul? Moi, j'éprouverais cet affreux supplice, je te verrais survivre à toi-même. Non, j'aime mieux te perdre que te partager. Que le ciel ne me donna-t-il un courage digne des transports qui m'agitent? Avant que ta main se fût avilie dans ce nœud funeste, abhorré par l'amour et réprouvé par l'honneur, j'irai de la mienne te plonger un poignard dans le sein. J'épuiserai ton chaste cœur d'un sang que n'aurait point souillé l'infidélité. À ce pur sang, je mêlerai celui qui brûle dans mes veines, d'un feu que rien ne peut éteindre. Je tomberai dans tes bras. Je rendrai sur tes lèvres mon dernier soupir. Je recevrai le tien. Julie expirante. Ses yeux si doux, éteints par les horreurs de la mort. Ce sein, ce trône de l'amour déchiré par ma main, versant à gros bouillons le sang et la vie. Non. Vis et souffre, porte la peine de ma lâcheté. Non, je voudrais que tu ne fusses plus, mais je ne puis t'aimer assez pour te poignarder. Oh, si tu connaissais l'état de ce cœur serré de détresse, jamais il ne brûla d'un feu si sacré, Jamais ton innocence et ta vertu ne lui fut si chère. Je suis amant, je suis aimé, je le sens. Mais je ne suis qu'un homme, et il est au-dessus de ma force humaine de renoncer à la suprême félicité. Une nuit, une seule nuit, a changé pour jamais toute mon âme. Ôte-moi ce dangereux souvenir, et je suis vertueux. Mais cette nuit fatale règne au fond de mon cœur et va couvrir de son ombre le reste de ma vie. Ah, Julie, objet adoré, s'il faut être à jamais misérable, encore une heure de bonheur et des regrets éternels. Écoute celui qui t'aime. Pourquoi voudrions-nous être plus sages, nous seuls, que tout le reste des hommes, et suivre avec une simplicité d'enfant de chimériques vertus dont tout le monde parle et que personne ne pratique? Quoi? Serons-nous meilleurs moralistes que ces foules de savants dont Londres et Paris sont peuplées, qui tous se raillent de la fidélité conjugale et regardent l'adultère comme un jeu? Les exemples n'en sont point scandaleux? Il n'est pas même permis d'y trouver à redire, et tous les honnêtes gens se riraient ici de celui qui, par respect pour le mariage, résisterait au penchant de son cœur. En effet, disent-ils, un tort qui n'est que dans l'opinion n'est-il pas nul quand il est secret? Quel mal reçoit un mari d'une infidélité qu'il ignore? De quelle complaisance une femme ne rachète-t-elle pas ses fautes? Quelle douceur n'emploie-t-elle pas à prévenir ou guérir ses soupçons? Privé d'un bien imaginaire, il vit réellement plus heureux, et ce prétendu crime dont tu fais tant de bruit n'est qu'un lien de plus dans la société. À Dieu ne plaise, ô cher ami de mon cœur, que je veuille rassurer le tien par ces honteuses maximes. Je les aborde sans savoir les combattre, et ma conscience y répond mieux que ma raison. Non que je me fasse fort d'un courage que je hais, ni que je voulusse d'une vertu si coûteuse, mais je me crois moins coupable en me reprochant mes fautes qu'en m'efforçant de les justifier, et je regarde comme le comble du crime d'en vouloir ôter les remords. Je ne sais ce que j'écris, je me sens l'âme dans un état affreux, pire que celui même où j'étais avant d'avoir reçu ta lettre. L'espoir que tu me rends est triste et sombre, il éteint cette lueur si pure qui nous guida tant de fois. Tes attraits s'en ternissent et ne deviennent que plus touchants. Je te vois tendre et malheureuse, mon cœur est inondé des pleurs qui coulent de tes yeux, et je me reproche avec amertume un bonheur que je ne puis plus goûter qu'aux dépens du tien. Je sens pourtant qu'une ardeur secrète m'anime encore et me rend le courage que veulent m'ôter les remords. Cher ami, ah, sais-tu de combien de pertes un amour pareil au mien peut te dédommager? Sais-tu jusqu'à quel point un amant qui ne respire que pour toi peut te faire aimer la vie? Conçois-tu bien que c'est pour toi seul que je veux vivre, agir, penser, sentir désormais? Non, source délicieuse de mon être, je n'aurai plus d'âme que ton âme. Je ne serai plus rien qu'une partie de toi-même. Et tu trouveras au fond de mon cœur une si douce existence que tu ne sentiras point ce que la tienne aura perdu de ses charmes. Eh bien, nous serons coupables, mais nous ne serons point méchants. Nous serons coupables, mais nous aimerons toujours la vertu. Loin d'oser excuser nos fautes, nous en gémirons. Nous les pleurerons ensemble, nous les rachèterons, s'il est possible, à force d'être bienfaisants et bons. Julie, ô Julie, que ferais-tu? Que peux-tu faire? Tu ne peux échapper à mon cœur? N'a-t-il pas épousé le tien? Ces 20 projets de fortune qui m'ont si grossièrement abusé sont oubliés depuis longtemps. Je vais m'occuper uniquement des soins que je dois à Milord Edward. Il veut m'entraîner en Angleterre. Il prétend que je puis l'y servir. Eh bien, je l'y suivrai. Mais je me déroberai tous les ans. Je me rendrai secrètement près de toi. Si je ne puis te parler, au moins je t'aurai vu. J'aurais du moins baisé tes pas. Un regard de tes yeux m'aura donné 10 mois de vie. Forcé de repartir, en m'éloignant de celle que j'aime, je compterai pour me consoler les pas qui doivent m'en rapprocher. Ces fréquents voyages donneront le change à ton malheureux amant. Il croira déjà jouir de ta vue en partant pour t'aller voir. Le souvenir de ces transports l'enchantera durant son retour. Malgré le sort cruel, ces tristes ans ne sont pas tout à fait perdus. Il n'y en aura point qui ne soit marqué par des plaisirs, et les courts moments qu'il passera près de toi se multiplieront sur sa vie entière.
Lettre 17 de Madame d'Orbe à Saint-Preux.
Votre amante n'est plus, mais j'ai retrouvé mon amie. Et vous en avez acquis une dont le cœur peut vous rendre beaucoup plus que vous n'avez perdu. Julie est mariée et digne de rendre heureux l'honnête homme qui vient d'unir son sort au sien. Après tant d'imprudence, rendez grâces au ciel qui vous a sauvés tous deux, elle de l'ignominie et vous du regret de l'avoir déshonorée. Respectez son nouvel état, ne lui écrivez point, elle vous en prie. Attendez qu'elle vous écrive, c'est ce qu'elle fera dans peu. Voici le temps où je vais connaître si vous méritez l'estime que j'eus pour vous, et si votre cœur est sensible à une amitié pure et sans intérêt.
Lettre 18 de Julie à Saint-Preux.
Vous êtes depuis si longtemps le dépositaire de tous les secrets de mon cœur qu'il ne saurait plus perdre une si douce habitude. Dans la plus importante occasion de ma vie, il veut s'épancher avec vous. Ouvrez-lui le vôtre, mon aimable ami. Recueillez dans votre sein les longs discours de l'amitié. Si quelquefois elle rend diffus l'ami qui parle, elle rend toujours patient l'ami qui écoute. Lié au sort d'un époux, ou plutôt aux volontés d'un père, par une chaîne indissoluble, j'entre dans une nouvelle carrière qui ne doit finir qu'à ma mort. En la commençant, jetons un moment les yeux sur celle que je quitte. Il ne nous sera pas pénible de rappeler un temps si cher. Peut-être y trouverai-je des leçons pour bien user de celui qui me reste. Peut-être y trouverez-vous des lumières pour expliquer ce que ma conduite eut toujours d'obscur à vos yeux. Au moins, en considérant ce que nous fûmes l'un à l'autre, nos cœurs n'en sentiront que mieux ce qu'ils se doivent jusqu'à la fin de nos jours. Il y a 6 ans, à peu près, que je vous vis pour la première fois. Vous étiez jeune, bien fait, aimable. D'autres jeunes gens m'ont paru plus beaux et mieux faits que vous. Aucun ne m'a donné la moindre émotion. Et mon cœur fut à vous dès la première vue. Je crus voir sur votre visage les traits de l'âme qu'il fallait à la mienne. Il me sembla que mes sens ne servaient que d'organes à des sentiments plus nobles. Et j'aimais dans vous moins ce que j'y voyais que ce que je croyais sentir en moi-même. Il n'y a pas 2 mois que je pensais encore ne m'être pas trompé. L'aveugle amour, me disais-je, avait raison. Nous étions faits l'un pour l'autre. Je serais à lui si l'ordre humain n'eût troublé les rapports de la nature, et s'il était permis à quelqu'un d'être heureux, nous aurions dû l'être ensemble. Mes sentiments nous furent communs. Ils m'auraient abusé si je les eusse éprouvés seuls. L'amour que j'ai connu ne peut naître que d'une convenance réciproque et d'un accord des âmes. On n'aime point si l'on est aimé. Du moins, on n'aime pas longtemps. Ces passions sans retour qui font, dit-on, tant de malheureux, ne sont fondées que sur les sens. Si quelques-unes pénètrent jusqu'à l'âme, c'est par des rapports faux dont on est bientôt détrompé. L'amour sensuel ne peut se passer de la possession et s'éteint par elle. Le véritable amour ne peut se passer du cœur et dure autant que les rapports qui l'ont fait naître. Tel fut le nôtre en commençant, tel il sera, j'espère, jusqu'à la fin de nos jours, quand nous l'aurons mieux ordonné. Je vis, je sentis que j'étais aimée et que je devais l'être. La bouche était muette, le regard était contraint, mais le cœur se faisait entendre. Nous éprouvâmes bientôt entre nous ce je ne sais quoi qui rend le silence éloquent, qui fait parler des yeux baissés, qui donne une timidité téméraire, qui montre les désirs par la crainte et dit tout ce qu'il n'ose exprimer. Je sentis mon cœur et me jugeai perdu à votre premier mot. J'aperçus la gêne de votre réserve, j'approuvais ce respect, je vous en aimais davantage. Je cherchais à vous dédommager d'un silence pénible et nécessaire, sans qu'il en coûtât à mon innocence. Je forçais mon naturel, j'imitais ma cousine, je devins badine et folâtre comme elle, pour prévenir des explications trop graves et faire passer 1000 tendres caresses à la faveur de ce feint enjouement. Je voulais vous rendre si doux votre état présent que la crainte d'en changer augmenta votre retenue. Tout cela me réussit mal. On ne sort point de son naturel impunément. Insensé que j'étais, j'accélérais ma perte au lieu de la prévenir. J'employais du poison pour palliatif, et ce qui devait vous faire taire fut précisément ce qui vous fit parler. J'eus beau, par une froideur affectée, vous tenir éloigné dans le tête-à-tête, cette contrainte même me trahit. Vous écris vite. Au lieu de jeter au feu votre première lettre ou de la porter à ma mère, j'osais l'ouvrir. Ce fut là mon crime, et tout le reste fut forcé. Je voulus m'empêcher de répondre à ces lettres funestes que je ne pouvais m'empêcher de lire. Cet affreux combat altéra ma santé. Je vis l'abîme où j'allais me précipiter. J'eus horreur de moi-même et ne pus me résoudre à vous laisser partir. Je tombais dans une sorte de désespoir. J'aurais mieux aimé que vous ne fussiez plus que de n'être point à moi. J'en vins à souhaiter votre mort, jusqu'à vous la demander. Le ciel a vu mon cœur. Cet effort doit racheter quelque faute. Vous voyant prête à m'obéir, il fallut parler. J'avais reçu de la Chaillot des leçons qui ne me firent que mieux connaître les dangers de cet aveu. L'amour qui me l'arrachait m'apprit à en éluder l'effet. Vous fûtes mon dernier refuge. J'eus assez de confiance en vous pour vous armer contre ma faiblesse. Je vous crus digne de me sauver de moi-même, et je vous rendis justice. En vous voyant respecter un dépôt si cher, je connus que ma passion ne m'aveuglait point sur les vertus qu'elle me faisait trouver en vous. Je m'y livrai avec d'autant plus de sécurité qu'il me sembla que nos cœurs se suffisaient l'un à l'autre. Sûr de ne trouver au fond du mien que des sentiments honnêtes, je goûtais sans précaution les charmes d'une douce familiarité. Hélas, je ne voyais pas que le mal s'invétérait par ma négligence et que l'habitude était plus dangereuse que l'amour. Touché de votre retenue, je crus pouvoir sans risque modérer la mienne. Dans l'innocence de mes désirs, je pensais encourager en vous la vertu même par les tendres caresses de l'amitié. J'appris, dans le bosquet de Clarence, que j'avais trop compté sur moi et qu'il ne faut rien accorder aux sens quand on veut leur refuser quelque chose. Un instant, un seul instant, embrasa les miens d'un feu que rien ne put éteindre, et si ma volonté résistait encore, dès lors, mon cœur fut corrompu. Vous partagiez mon égarement, votre lettre me fit trembler. Le péril était doublé. Pour me garantir de vous et de moi, il fallut vous éloigner. Ce fut le dernier effort d'une vertu mourante. En fuyant, vous achevâtes de vaincre, et sitôt que je ne vous vis plus, ma langueur m'ôta le peu de force qui me restait pour vous résister. Mon père, en quittant le service, avait amené chez lui M. de Volmar. La vie qu'il lui devait, et une liaison de 20 ans, lui rendait cet ami si cher qu'il ne pouvait se séparer de lui. M. de Volmar avançait en âge, et, quoique riche et de grande naissance, il ne trouvait point de femme qui lui convînt. Mon père lui avait parlé de sa fille en homme qui souhaitait se faire un gendre de son ami. Il fut question de la voir, et c'est dans ce dessein qu'ils firent le voyage ensemble. Mon destin voulut que je plusse à M. de Volmar, qui n'avait jamais rien aimé. Ils se donnèrent secrètement leurs paroles, et M. de Volmar, ayant beaucoup d'affaires à régler dans une cour du Nord où étaient sa famille et sa fortune, il en demanda le temps et partit sur cet engagement mutuel. Après son départ, mon père nous déclara à ma mère et à moi qu'il me l'avait destiné pour époux, et m'ordonna d'un ton qui ne laissait point de réplique à ma timidité de me disposer à recevoir sa main. Ma mère, qui n'avait que trop remarqué le penchant de mon cœur et qui se sentait pour vous une inclination naturelle, essaya plusieurs fois d'ébranler cette résolution. Sans oser vous proposer, elle parlait de manière à donner à mon père de la considération pour vous et le désir de vous connaître, mais la qualité qui vous manquait le rendit insensible à toutes celles que vous possédiez, et s'il convenait que la naissance ne les pouvait remplacer, il prétendait qu'elle seule pouvait les faire valoir. L'impossibilité d'être heureuse irrita des feux qu'elle eût dû éteindre. Une flatteuse illusion me soutenait dans mes peines, je perdis avec elle la force de les supporter. Tant qu'il me fut resté quelque espoir d'être à vous, peut-être aurais-je triomphé de moi. Il m'en eût moins coûté de vous résister toute ma vie que de renoncer à vous pour jamais, et la seule idée d'un combat éternel m'ôta le courage de vaincre. La tristesse et l'amour consumaient mon cœur. Je tombais dans un abattement dont mes lettres se sentirent. Celle que vous m'écrivîtes de Meillerie y mit le comble. À mes propres douleurs se joignit le sentiment de votre désespoir. Hélas, c'est toujours l'âme la plus faible qui porte les peines de toutes deux. Le parti que vous m'osiez proposer mit le comble à mes perplexités. L'infortune de mes jours était assurée. L'inévitable choix qui me restait à faire était d'y joindre celle de mes parents, ou la vôtre. Je ne pus supporter cette horrible alternative. Les forces de la nature ont un terme. Tant d'agitations épuisèrent les miennes. Je souhaitais d'être délivré de la vie. Le ciel parut avoir pitié de moi, mais la cruelle mort m'épargna pour me perdre. Je vous vis, je fus guéri, et je péris. Si je ne trouvais point le bonheur dans mes fautes, je n'avais jamais espéré l'y trouver. Je sentais que mon cœur était fait pour la vertu, et qu'il ne pouvait être heureux sans elle. Je succombais par faiblesse, et non par erreur. Je n'eus pas même l'excuse de l'aveuglement. Il ne me restait aucun espoir. Je ne pouvais plus qu'être infortuné. L'innocence et l'amour m'étaient également nécessaires. Ne pouvant les conserver ensemble, et voyant votre égarement, je ne consultais que vous dans mon choix, et me perdis pour vous sauver. Mais il n'est pas si facile qu'on pense de renoncer à la vertu. Elle tourmente longtemps ceux qui l'abandonnent, et ses charmes, qui font les délices des âmes pures, font le premier supplice du méchant, qui les aime encore et n'en saurait plus jouir. Coupable et non dépravé, je ne pus échapper aux remords qui m'attendaient. L'honnêteté me fut chère, même après l'avoir perdue. Ma honte, pour être secrète, n'en fut pas moins amère, et quand tout l'univers en eût été témoin, je ne l'aurais pas mieux senti. Je me consolais dans ma douleur, comme un blessé qui craint la gangrène, et en qui le sentiment de son mal soutient l'espoir d'en guérir. Cependant, cet état d'opprobre m'était odieux. À force de vouloir étouffer le reproche sans renoncer au crime, il m'arriva ce qu'il arrive à toute âme honnête qui s'égare et qui se plaît dans son égarement. Une illusion nouvelle vint adoucir l'amertume du repentir. J'espérais tirer de ma faute un moyen de la réparer, et j'osais former le projet de contraindre mon père à nous unir. Le premier fruit de notre amour devait serrer ce doux lien. Je le demandais au ciel comme le gage de mon retour à la vertu et de notre bonheur commun. Je le désirais comme un autre à ma place aurait pu le craindre. Le tendre amour, tempérant par son prestige le murmure de la conscience, me consolait de ma faiblesse par l'effet que j'en attendais, et faisait d'une si chère attente le charme et l'espoir de ma vie. Sitôt que j'aurais porté des marques sensibles de mon état, j'avais résolu d'en faire, en présence de toute ma famille, une déclaration publique à M. Perret. Je suis timide, il est vrai, je sentais tout ce qu'il m'en devait coûter, mais l'honneur même animait mon courage, et j'aimais mieux supporter une fois la confusion que j'avais méritée que de nourrir une honte éternelle au fond de mon cœur. Je savais que mon père me donnerait la mort ou mon amant. Cette alternative n'avait rien d'effrayant pour moi, et de manière ou d'autre, j'envisageais dans cette démarche la fin de tous mes malheurs. Tel était, mon bon ami, le mystère que je voulus vous dérober et que vous cherchiez à pénétrer avec une si curieuse inquiétude. Mille raisons me forçaient à cette réserve, avec un homme aussi emporté que vous, sans compter qu'il ne fallait pas armer d'un nouveau prétexte votre indiscrète importunité. Il était à propos surtout de vous éloigner durant une si périlleuse scène, et je savais bien que vous n'auriez jamais consenti à m'abandonner dans un danger pareil s'il vous eût été connu. Hélas, je fus encore abusé par une si douce espérance. Le ciel rejeta des projets conçus dans le crime. Je ne méritais pas l'honneur d'être mère. Mon attente resta toujours vaine, et il me fut refusé d'expier ma faute aux dépens de ma réputation. Dans le désespoir que j'en conçus, l'imprudent rendez-vous qui mettait votre vie en danger fut une témérité que mon fol amour me voilait d'une si douce excuse. Je m'en prenais à moi du mauvais succès de mes vœux, et mon cœur abusé par ses désirs ne voyait dans l'ardeur de les contenter que le soin de les rendre un jour légitimes. Je l'ai cru, un instant, accompli. Cette erreur fut la source du plus cuisant de mes regrets, et l'amour exaucé par la nature n'en fut que plus cruellement trahi par la destinée. Vous avez su quel accident détruisit, avec le germe que je portais dans mon sein, le dernier fondement de mes espérances. Ce malheur m'arriva précisément dans le temps de notre séparation, comme si le ciel eût voulu m'accabler alors de tous les maux que j'avais mérités et couper à la fois tous les liens qui pouvaient nous unir. Votre départ fut la fin de mes erreurs, ainsi que de mes plaisirs. Je reconnus, mais trop tard, les chimères qui m'avaient abusé. Je me vis aussi méprisable que je l'étais devenue, et aussi malheureuse que je devais toujours l'être avec un amour sans innocence et des désirs sans espoir qu'il m'était impossible d'éteindre. Tourmenté de 1020 regrets, je renonçais à des réflexions aussi douloureuses qu'inutiles. Je ne valais plus la peine que je songeasse à moi-même. Je consacrais ma vie à m'occuper de vous. Je n'avais plus d'honneur que le vôtre, plus d'espérance qu'en votre bonheur, et les sentiments qui me venaient de vous étaient les seuls dont je crusse pouvoir être encore ému. L'amour ne m'aveuglait point sur vos défauts, mais il me les rendait chers, et telle était son illusion que je vous aurais moins aimé si vous aviez été plus parfait. Je connaissais votre cœur, vos emportements, je savais qu'avec plus de courage que moi, vous aviez moins de patience, et que les maux dont mon âme était accablée mettraient la vôtre au désespoir. C'est par cette raison que je vous cachais toujours avec soin les engagements de mon père, et, à notre séparation, voulant profiter du zèle de Milord Edward pour votre fortune et vous en inspirer un pareil à vous-même, je vous flattais d'un espoir que je n'avais pas. Je fis plus. Connaissant le danger qui nous menaçait, je pris la seule précaution qui pouvait nous en garantir, et, vous engageant avec ma parole, ma liberté autant qu'il m'était possible, je tâchais d'inspirer à vous de la confiance, à moi de la fermeté, par une promesse que je n'osasse enfreindre et qui pût vous tranquilliser. C'était un devoir puéril, j'en conviens, et cependant je ne m'en serais jamais départi. La vertu est si nécessaire à nos cœurs que, quand on a une fois abandonné la véritable, on s'en fait ensuite une à sa mode et l'on y tient plus fortement peut-être, parce qu'elle est de notre choix. Je ne vous dirai point combien j'éprouvais d'agitation depuis votre éloignement. La pire de toutes était la crainte d'être oubliée. Le séjour où vous étiez me faisait trembler. Votre manière d'y vivre augmentait mon effroi. Je croyais déjà vous voir avilir jusqu'à n'être plus qu'un homme à bonne fortune. Cette ignominie m'était plus cruelle que tous mes maux. J'aurais mieux aimé vous savoir malheureux que méprisable. Après tant de peines auxquelles j'étais accoutumée, votre déshonneur était la seule que je ne pouvais supporter. Je fus rassurée sur des craintes que le ton de vos lettres commençait à confirmer, et je le fus par un moyen qui eût pu mettre le comble aux alarmes d'une autre. Je parle du désordre où vous vous laissâtes entraîner, et dont le prompt et libre aveu fut de toutes les preuves de votre franchise celle qui m'a le plus touchée. Je vous connaissais trop pour ignorer ce qu'un pareil aveu devait vous coûter. Quand même j'aurais cessé de vous être cher, je vis que l'amour, vainqueur de la honte, avait pu seul vous l'arracher. Je jugeais qu'un cœur si sincère était incapable d'une infidélité cachée. Je trouvais moins de tort dans votre faute que de mérite à la confesser, et me rappelant vos anciens engagements, je me guéris pour jamais de la jalousie. Mon ami, je n'en fus pas plus heureuse. Pour un tourment de moins, sans cesse il en renaissait 1000 autres, et je ne connus jamais mieux combien il est insensé de chercher dans l'égarement de son cœur un repos qu'on ne trouve que dans la sagesse. Depuis longtemps, je pleurais en secret la meilleure des mères qu'une langueur mortelle consumait insensiblement. Baby, à qui le fatal effet de ma chute m'avait forcé à me confier, me trahit et lui découvrit nos amours et mes fautes. À peine eus-je retiré vos lettres de chez ma cousine qu'elles furent surprises. Le témoignage était convaincant. La tristesse acheva d'ôter à ma mère le peu de force que son mal lui avait laissé. Je faillis expirer de regret à ses pieds. Loin de m'exposer à la mort que je méritais, elle voila ma honte et se contenta d'en gémir. Vous-même, qui l'aviez si cruellement abusé, ne put lui devenir odieux. Je fus témoin de l'effet que produisit votre lettre sur son cœur tendre et compatissant. Hélas, elle désirait votre bonheur et le mien. Elle tenta plus d'une fois. Oh, que sert de rappeler une espérance à jamais éteinte. Le ciel en avait autrement ordonné. Elle finit ses tristes jours dans la douleur de n'avoir pu fléchir un époux sévère et de laisser une fille si peu digne d'elle. Accablée d'une si cruelle perte, mon âme n'eut plus de force que pour la sentir. La voix de la nature gémissante étouffa les murmures de l'amour. Je pris dans une espèce d'horreur la cause de tant de maux. Je voulus étouffer enfin l'odieuse passion qui me les avait attirés et renoncer à vous pour jamais. Il le fallait, sans doute. N'avais-je assez de quoi pleurer le reste de ma vie sans chercher incessamment de nouveaux sujets de larmes? Tout semblait favoriser ma résolution. Si la tristesse attendrit l'âme, une profonde affliction l'endurcit. Le souvenir de ma mère mourante effaçait le vôtre. Nous étions éloignés, l'espoir m'avait abandonné. Jamais mon incomparable ami ne fut si sublime ni si digne d'occuper seul tout mon cœur. Sa vertu, sa raison, son amitié, ses tendres caresses semblaient l'avoir purifié. Je vous crus oublié, je me crus guéri. Il était trop tard. Ce que j'avais pris pour la froideur d'un amour éteint n'était que l'abattement du désespoir. Comme un malade qui cesse de souffrir en tombant dans faiblesse se ranime à de plus vives douleurs, je sentis bientôt renaître toutes les miennes quand mon père m'eut annoncé le prochain retour de monsieur de Volmar. Ce fut alors que l'invincible amour me rendit des forces que je croyais n'avoir plus. Pour la première fois de ma vie, j'osais résister en face à mon père. Je lui protestais nettement que jamais monsieur de Volmar ne me serait rien, que j'étais déterminée à mourir fille, qu'il était maître de ma vie, mais non pas de mon cœur, et que rien ne me ferait changer de volonté. Je ne vous parlerai ni de sa colère, ni des traitements que j'eus à souffrir. Je fus inébranlable. Ma timidité surmontée m'avait portée à l'autre extrémité, et si j'avais le ton moins impérieux que mon père, je l'avais tout aussi résolu. Il vit que j'avais pris mon parti, et qu'il ne gagnerait rien sur moi par autorité. Un instant, je me crus délivré de ses persécutions. Mais que devins-je, quand tout à coup je vis à mes pieds le plus sévère des pères, attendri et fondant en larmes. Sans me permettre de me lever, il me serrait les genoux, et fixant ses yeux mouillés sur les miens, il me dit d'une voix touchante que j'entends encore au-dedans de moi. « Ma fille, respecte les cheveux blancs de ton malheureux père, ne le fais pas descendre avec douleur au tombeau, comme celle qui te porta dans son sein. Ah ! Veux-tu donner la mort à toute ta famille ?» Concevez mon saisissement. Cette attitude, ce ton, ce geste, ce discours, cette affreuse idée, me bouleversèrent au point que je me laissai aller demi-morte entre ses bras, et ce ne fut qu'après bien des sanglots dont j'étais oppressée que je pus lui répondre d'une voix altérée et faible. « Oh, mon père, j'avais des armes contre vos menaces, je n'en ai point contre vos pleurs, c'est vous qui ferez mourir votre fille. » Nous étions tous deux tellement agités que nous ne pûmes de longtemps nous remettre. Cependant, en repassant en moi-même ces derniers mots, je conçus qu'il était plus instruit que je n'avais cru, et, résolu de me prévaloir contre lui de ses propres connaissances, je me préparais à lui faire, au péril de ma vie, un aveu trop longtemps différé, quand, m'arrêtant avec vivacité comme s'il eût prévu et craint ce que j'allais lui dire, il me parla ainsi. « Je sais quelle fantaisie, indigne d'une fille bien née, vous nourrissez au fond de votre cœur. Il est temps de sacrifier au devoir et à l'honnêteté une passion honteuse qui vous déshonore et que vous ne satisferez jamais qu'aux dépens de ma vie. Écoutez une fois ce que l'honneur d'un père et le vôtre exigent de vous, et jugez-vous vous-même. » Monsieur de Volmar est un homme d'une grande naissance, distingué par toutes les qualités qui peuvent la soutenir, qui jouit de la considération publique et qui la mérite. Je lui dois la vie. Vous savez les engagements que j'ai pris avec lui. Ce qu'il faut vous apprendre encore, c'est qu'étant allé dans son pays pour mettre ordre à ses affaires, il s'est trouvé enveloppé dans la dernière révolution, qu'il y a perdu ses biens, qu'il n'a lui-même échappé à l'exil en Sibérie que par un bonheur singulier, et qu'il revient avec le triste débris de sa fortune sur la parole de son ami qui n'en manqua jamais à personne. Prescrivez-moi maintenant la réception qu'il faut lui faire à son retour. Lui dirai-je « Monsieur, je vous ai promis ma fille tandis que vous étiez riche, mais à présent que vous n'avez plus rien, je me rétracte et ma fille ne veut point de vous ?» Si ce n'est pas ainsi que j'énonce mon refus, c'est ainsi qu'on l'interprétera. Vos amours allégués seront pris pour un prétexte, ou ne seront pour moi qu'un affront de plus, et nous passerons, vous pour une fille perdue, moi pour un malhonnête homme qui sacrifie son devoir et sa foi à un vil intérêt et joint l'ingratitude à l'infidélité. Ma fille, il est trop tard pour finir dans l'opprobre une vie sans tache, et 60 ans d'honneur ne s'abandonnent pas en un quart d'heure. Voyez donc, continua-t-il, combien tout ce que vous pouvez me dire est à présent hors de propos. Voyez si des préférences que la pudeur désavoue et quelques feux passagers de jeunesse peuvent jamais être mis en balance avec le devoir d'une fille et l'honneur compromis d'un père. S'il n'était question pour l'un des deux que d'immoler son bonheur à l'autre, ma tendresse vous disputerait un si doux sacrifice. Mais, mon enfant, l'honneur a parlé, et dans le sang dont tu sors, c'est toujours lui qui décide. » Je ne manquais pas de bonne réponse à ce discours, mais les préjugés de mon père lui donnent des principes si différents des miens que des raisons qui me semblaient sans réplique ne l'auraient pas même ébranlé. D'ailleurs, ne sachant ni d'où lui venaient les lumières qu'il paraissait avoir acquises sur ma conduite, ni jusqu'où elles pouvaient aller, craignant à son affectation de m'interrompre qu'il n'eût déjà pris son parti sur ce que j'avais à lui dire, et plus que tout cela, retenu par une honte que je n'ai jamais pu vaincre, j'aimais mieux employer une excuse qui me parut plus sûre, parce qu'elle était plus selon sa manière de penser. Je lui déclarais sans détour l'engagement que j'avais pris avec vous. Je protestais que je ne vous manquerais point de parole, et que, quoi qu'il pût arriver, je ne me marierais jamais sans votre consentement. En effet, je m'aperçus avec joie que mon scrupule ne lui déplaisait pas. Il me fit de vifs reproches sur ma promesse, mais il n'y objecta rien, tant un gentilhomme plein d'honneur a naturellement une haute idée de la foi, des engagements, et regarde la parole comme une chose toujours sacrée. Au lieu donc de s'amuser à disputer sur la nullité de cette promesse, dont je ne serais jamais convenu, il m'obligea à décrire un billet, auquel il joignit une lettre qu'il fit partir sur le champ. Avec quelle agitation n'attendis-je point votre réponse? Combien je fis de vœux pour vous trouver moins de délicatesse que vous deviez en avoir? Mais je vous connaissais trop pour douter de votre obéissance, et je savais que plus le sacrifice exigé vous serait pénible, plus vous seriez prompt à vous l'imposer. La réponse vint. Elle me fut cachée durant ma maladie. Après mon rétablissement, mes craintes furent confirmées, et il ne me resta plus d'excuses. Au moins, mon père me déclara qu'il n'en recevrait plus, et avec l'ascendant que le terrible mot qu'il m'avait dit lui donnait sur mes volontés, il me fit jurer que je ne dirais rien à M. de Volmar qui pût le détourner de m'épouser, car, ajouta-t-il, cela lui paraîtrait un jeu concerté entre nous, et à quelque prix que ce soit, il faut que ce mariage s'achève ou que je meure de douleur. Vous le savez, mon ami, ma santé, si robuste contre la fatigue et les injures de l'air, ne peut résister aux intempéries des passions, et c'est dans mon trop sensible cœur qu'est la source de tous les maux, et de mon corps et de mon âme. Soit que de longs chagrins eussent corrompu mon sang, soit que la nature eût pris ce temps pour l'épurer d'un levain funeste, je me sentis fort incommodée à la fin de cet entretien. En sortant de la chambre de mon père, je m'efforçais pour vous écrire un mot, et me trouvais si mal qu'en me mettant au lit j'espérais ne m'en plus relever. Tout le reste vous est trop connu. Mon imprudence attira la vôtre. Vous vintes, je vous vis, et je crus n'avoir fait qu'un de ces rêves qui vous offraient si souvent à moi, durant mon délire. Mais quand j'ai appris que vous étiez venu, que je vous avais vu réellement, et que voulant partager le mal dont vous ne pouviez me guérir, vous l'aviez pris à dessein, je ne pus supporter cette dernière épreuve, et voyant un si tendre amour survivre à l'espérance, le mien, que j'avais pris tant de peine à contenir, ne connut plus de frein, et se ranima bientôt avec plus d'ardeur que jamais. Je vis qu'il fallait aimer malgré moi, je sentis qu'il fallait être coupable, que je ne pouvais résister ni à mon père, ni à mon amant, et que je n'accorderais jamais les droits de l'amour et du sang qu'aux dépens de l'honnêteté. Ainsi, tous mes bons sentiments achevèrent de s'éteindre, toutes mes facultés s'altérèrent, le crime perdit son horreur à mes yeux, je me sentis tout autre au-dedans de moi. Enfin, les transports effrénés d'une passion rendue furieuse par les obstacles me jetèrent dans le plus affreux désespoir qui puisse accabler une âme. J'osais désespérer de la vertu. Votre lettre, plus propre à réveiller les remords qu'à les prévenir, acheva de m'égarer. Mon cœur était si corrompu que ma raison ne put résister aux discours de vos philosophes. Des horreurs dont l'idée n'avait jamais souillé mon esprit osèrent s'y présenter. La volonté les combattait encore, mais l'imagination s'accoutumait à les voir, et si je ne portais pas d'avance le crime au fond de mon cœur, je n'y portais plus ces résolutions généreuses qui seules peuvent lui résister. J'ai peine à poursuivre. Arrêtons un moment. Rappelez-vous ce temps de bonheur et d'innocence où ce feu si vif et si doux dont nous étions animés épurait tous nos sentiments, où sa sainte ardeur nous rendait la pudeur plus chère et l'honnêteté plus aimable, où les désirs mêmes ne semblaient naître que pour nous donner l'honneur de les vaincre et d'en être plus dignes l'un de l'autre. Relisez nos premières lettres, songez à ces moments si courts et trop peu goûtés où l'amour se paraît à nos yeux de tous les charmes de la vertu, et où nous nous aimions trop pour former entre nous des liens désavoués par elle. Qu'étions-nous et que sommes-nous devenus ? Deux tendres amants passèrent ensemble une année entière dans le plus rigoureux silence. Leurs soupirs n'osaient s'exhaler, mais leurs cœurs s'entendaient. Ils croyaient souffrir et ils étaient heureux. À force de s'entendre, ils se parlèrent, mais, contents de savoir triompher d'eux-mêmes et de s'en rendre mutuellement l'honorable témoignage, ils passèrent une autre année dans une réserve non moins sévère. Ils se disaient leur peine et ils étaient heureux. Ces longs combats furent mal soutenus. Un instant de faiblesse les égara. Ils s'oublièrent dans les plaisirs, mais s'ils cessèrent d'être chastes, au moins ils étaient fidèles. Au moins le ciel et la nature autorisaient les nœuds qu'ils avaient formés. Au moins la vertu leur était toujours chère. Ils l'aimaient encore et la savaient encore honorer. Ils s'étaient moins corrompus qu'avilis. Moins dignes d'être heureux, ils l'étaient pourtant encore. Que font maintenant ces amants si tendres, qui brûlaient d'une flamme si pure, qui sentaient si bien le prix de l'honnêteté? Qui la prendra sans gémir sur eux? Les voilà livrés au crime. L'idée même de souiller le lit conjugal ne leur fait plus d'horreur. Ils méditent des adultères. Quoi? Sont-ils bien les mêmes? Leurs âmes n'ont-elles point changé? Comment cette ravissante image que le méchant n'aperçut jamais peut-elle s'effacer des cœurs où elle a brillé? Comment l'attrait de la vertu ne dégoûte-t-il pas pour toujours du vice ceux qui l'ont une fois connu? Combien de siècles ont pu produire ce changement étrange? Quelle longueur de temps put détruire un si charmant souvenir et faire perdre le vrai sentiment du bonheur à qui l'a pu savourer une fois? Ah, si le premier désordre est pénible et lent, que tous les autres sont prompts et faciles! Prestige des passions, tu fascines ainsi la raison, tu trompes la sagesse et changes la nature avant qu'on s'en aperçoive. On s'égare un seul moment de la vie, on se détourne d'un seul pas de la droite route. Aussitôt, une pente inévitable nous entraîne et nous perd. On tombe enfin dans le gouffre, et l'on se réveille épouvanté de se trouver couvert de crimes avec un cœur né pour la vertu. Mon bon ami, laissons retomber ce voile. Avons-nous besoin de voir le précipice affreux qu'il nous cache pour éviter d'en approcher? Je reprends mon récit. Monsieur de Volmar arriva, et ne se rebuta pas du changement de mon visage. Mon père ne me laissa pas respirer. Le deuil de ma mère allait finir, et ma douleur était à la preuve du temps. Je ne pouvais alléguer ni l'un ni l'autre pour éluder ma promesse. Il fallut l'accomplir. Le jour qui devait m'ôter pour jamais à vous et à moi me parut le dernier de ma vie. J'aurais vu les apprêts de ma sépulture avec moins d'effroi que ceux de mon mariage. Plus j'approchais du moment fatal, moins je pouvais déraciner de mon cœur mes premières affections. Elle s'irritait par mes efforts pour les éteindre. Enfin, je me lassais de combattre inutilement. Dans l'instant même où j'étais prête à jurer à un autre une éternelle fidélité, mon cœur vous jurait encore un amour éternel, et je fus menée au temple comme une victime impure qui souille le sacrifice où on va l'immoler. Arrivée à l'église, je sentis en entrant une sorte d'émotion que je n'avais jamais éprouvée. Je ne sais quelle terreur vint saisir mon âme dans ce lieu simple et auguste, tout rempli de la majesté de celui qu'on y sert. Une frayeur soudaine me fit frissonner. Tremblante et prête à tomber en défaillance, j'eus peine à me traîner jusqu'au pied de la chaire. Loin de me remettre, je sentis mon trouble augmenter durant la cérémonie, et s'il me laissait apercevoir les objets, c'était pour en être épouvanté. Le jour sombre de l'édifice, le profond silence des spectateurs, leur maintien modeste et recueilli, le cortège de tous mes parents, l'imposant aspect de mon vénéré père, tout donnait à ce qui s'allait passer un air de solennité qui m'excitait à l'attention et au respect et qui m'eût fait frémir à la seule idée d'un parjure. Je crus voir l'organe de la Providence et entendre la voix de Dieu dans le ministre prononçant gravement la sainte liturgie. La pureté, la dignité, la sainteté du mariage, si vivement exposées dans les paroles de l'Écriture, ces chastes et sublimes devoirs si importants au bonheur, à l'ordre, à la paix, à la durée du genre humain, si doux à remplir pour eux-mêmes, Tout cela me fit une telle impression que je crus sentir intérieurement une révolution subite. Une puissance inconnue sembla corriger tout à coup le désordre de mes affections et les rétablir selon la loi du devoir et de la nature. L'œil éternel qui voit tout, disais-je en moi-même, lit maintenant au fond de mon cœur. Il compare ma volonté cachée à la réponse de ma bouche. Le ciel et la terre sont témoins de l'engagement sacré que je prends. Ils le seront encore de ma fidélité à l'observer. Quel droit peut respecter parmi les hommes quiconque ose violer le premier de tous? Un coup d'œil jeté par hasard sur monsieur et madame d'Orbe, que je vis à côté l'un de l'autre, et fixant sur moi des yeux attendris, m'émut plus puissamment encore que n'avaient fait tous les autres objets. Aimable et vertueux couple, pour moins connaître l'amour, en êtes-vous moins unis? Le devoir et l'honnêteté vous lient, tendres amis, époux fidèles, sans brûler de ce feu dévorant qui consume l'âme, vous vous aimez d'un sentiment pur et doux qui la nourrit, que la sagesse autorise et que la raison dirige. Vous n'en êtes que plus solidement heureux. Ah, puissé-je dans un lien pareil recouvrer la même innocence et jouir du même bonheur. Si je ne l'ai pas mérité comme vous, je m'en rendrais digne à votre exemple. Ces sentiments réveillèrent mon espérance et mon courage. J'envisageais le saint nœud que j'allais former comme un nouvel état qui devait purifier mon âme et la rendre à tous ses devoirs. Quand le pasteur me demanda si je promettais obéissance et fidélité parfaite à celui que j'acceptais pour époux, ma bouche et mon cœur le promirent. Je le tiendrai jusqu'à la mort. De retour au logis, je soupirai après une heure de solitude et de recueillement. Je l'obtins, non sans peine, et quelque empressement que j'eusse d'en profiter, je ne m'examinais d'abord qu'avec répugnance, craignant de n'avoir éprouvé qu'une fermentation passagère en changeant de condition, et de me retrouver aussi peu digne épouse que j'avais été fille peu sage. L'épreuve était sûre, mais dangereuse. Je commençais par songer à vous. Je me rendais le témoignage que nul tendre souvenir n'avait profané l'engagement solennel que je venais de prendre. Je ne pouvais concevoir par quel prodige votre opiniâtre image m'avait pu laisser si longtemps en paix avec tant de sujets de me la rappeler. Je me serais défié de l'indifférence et de l'oubli comme d'un état trompeur qui m'était trop peu naturel pour être durable. Cette illusion n'était guère à craindre. Je sentis que je vous aimais autant et plus peut-être que je n'avais jamais fait, mais je le sentis sans rougir. Je vis que je n'avais pas besoin pour penser à vous d'oublier que j'étais la femme d'un autre. En me disant combien vous m'étiez cher, mon cœur était ému, mais ma conscience et mes sens étaient tranquilles, et je connus dès ce moment que j'étais réellement changée. Quel torrent de pure joie vint alors inonder mon âme, quel sentiment de paix, effacé depuis si longtemps, vint ranimer ce cœur flétri par l'ignominie et répandre dans tout mon être une sérénité nouvelle. Je crus me sentir renaître, je crus recommencer une autre vie. Douce et consolante vertu, je la recommence pour toi. C'est toi qui me la rendras chère, c'est à toi que je la veux consacrer. Ah, j'ai trop appris ce qu'il en coûte à te perdre pour t'abandonner une seconde fois. Dans le ravissement d'un changement si grand, si prompt, si inespéré, j'osais considérer l'état où j'étais la veille. Je frémis de l'indigne abaissement où m'avait réduit l'oubli de moi-même et de tous les dangers que j'avais courus depuis mon premier égarement. Quelle heureuse révolution me venait de montrer l'horreur du crime qui m'avait tenté et réveillait en moi le goût de la sagesse. Par quel rare bonheur avais-je été plus fidèle à l'amour qu'à l'honneur qui me fut si cher? Par quelle faveur du sort, votre inconstance ou la mienne, ne m'avait-elle point livré de nouvelles inclinations? Comment eussé-je opposé à un autre amant une résistance que le premier avait déjà vaincue et une honte accoutumée à céder au désir? Aurais-je plus respecté les droits d'un amour éteint que je n'avais respecté ceux de la vertu, jouissant encore de tout leur empire? Quelle sûreté avais-je eue de n'aimer que vous seul au monde, et si ce n'est un sentiment intérieur que croient avoir tous les amants qui se jurent une constance éternelle et se parjurent innocemment toutes les fois qu'il plaît au ciel de changer leur cœur? Chaque défaite eût ainsi préparé la suivante. L'habitude du vice en eût effacé l'horreur à mes yeux. Entraîné du déshonneur à l'infamie, sans trouver de prise pour m'arrêter, d'une amante abusée je devenais une fille perdue, l'opprobre de mon sexe et le désespoir de ma famille. Qui m'a garanti d'un effet si naturel de ma première faute? Qui m'a retenu après le premier pas? Qui m'a conservé ma réputation et l'estime de ceux qui me sont chers? Qui m'a mise sous la sauvegarde d'un époux vertueux, sage, aimable par son caractère et même par sa personne, et rempli pour moi d'un respect et d'un attachement si peu mérités? Qui me permet enfin d'aspirer encore au titre d'honnête femme et me rend le courage d'en être digne? Je le vois, je le sens. La main secourable qui m'a conduite à travers les ténèbres est celle qui lève à mes yeux le voile de l'erreur et me rend à moi, malgré moi-même. La voix secrète, qui ne cessait de murmurer au fond de mon cœur, s'élève et tonne avec plus de force au moment où j'étais prête à périr. L'auteur de toute vérité n'a point souffert que je sortisse de sa présence, coupable d'un vil parjure, et, prévenant mon crime par mes remords, il m'a montré l'abîme où j'allais me précipiter. Providence éternelle, qui fait ramper l'insecte et rouler les cieux, tu veilles sur la moindre de tes œuvres. Tu me rappelles au bien que tu m'as fait aimer. Daigne accepter d'un cœur épuré par tes soins l'hommage que toi seul rends digne de t'être offert. À l'instant, pénétré d'un vif sentiment du danger dont j'étais délivré et de l'état d'honneur et de sûreté où je me sentais rétabli, je me prosternai contre terre, j'élevai vers le ciel mes mains suppliantes, j'invoquai l'être dont il est le trône et qui soutient ou détruit quand il lui plaît par nos propres forces la liberté qu'il nous donne. « Je veux, lui dis-je, le bien que tu veux et dont toi seul est la source. Je veux aimer l'époux que tu m'as donné. Je veux être fidèle. » Parce que c'est le premier devoir qui lie la famille et toute la société. Je veux être chaste, parce que c'est la première vertu qui nourrit toutes les autres. Je veux tout ce qui se rapporte à l'ordre de la nature que tu as établi et aux règles de la raison que je tiens de toi. Je remets mon cœur sous ta garde et mes désirs en ta main. Rends toutes mes actions conformes à ma volonté constante qui est la tienne et ne permets plus que l'erreur d'un moment l'emporte sur le choix de toute ma vie. Après cette courte prière, la première que j'eusse faite avec un vrai zèle, je me sentis tellement affermie dans mes résolutions, il me parut si facile et si doux de les suivre, que je vis clairement où je devais chercher désormais la force dont j'avais besoin pour résister à mon propre cœur et que je ne pouvais trouver en moi-même. Je tirai de cette seule découverte une confiance nouvelle et je déplorai le triste aveuglement qui me l'avait fait manquer si longtemps. Je n'avais jamais été tout à fait sans religion, mais peut-être vaudrait-il mieux n'en avoir point du tout que d'en avoir une extérieure et maniérée qui, sans toucher le cœur, rassure la conscience, de se borner à des formules et de croire exactement en Dieu à certaines heures pour n'y plus penser le reste du temps. Scrupuleusement attachée au culte public, je n'en savais rien tirer pour la pratique de ma vie. Je me sentais bien née et me livrais à mes penchants. J'aimais à réfléchir et me fiais à ma raison. Ne pouvant accorder l'esprit de l'Évangile avec celui du monde, ni la foi avec les œuvres, j'avais pris un milieu qui contentait ma vaine sagesse. J'avais des maximes pour croire et d'autres pour agir. J'oubliais dans un lieu ce que j'avais pensé dans l'autre. J'étais dévote à l'Église et philosophe au logis. Hélas, je n'étais rien nulle part. Mes prières n'étaient que des mots, mes raisonnements des sophismes, et je suivais pour toute lumière la fausse lueur des feux errants qui me guidaient pour me perdre. Je ne puis vous dire combien ce principe intérieur qui m'avait manqué jusqu'ici m'a donné de mépris pour ceux qui m'ont si mal conduite. Quelle était, je vous prie, leur raison première et sur quelle base était-il fondée? Un heureux instinct me porte au bien. Une violente passion s'élève. Elle a sa racine dans le même instinct. Que ferais-je pour la détruire? De la considération de l'ordre, je tire la beauté de la vertu et sa bonté de l'utilité commune. Mais que fait tout cela contre mon intérêt particulier, et lequel au fond m'importe le plus, de mon bonheur aux dépens du reste des hommes, ou du bonheur des autres aux dépens du mien? Si la crainte de la honte ou du châtiment m'empêche de mal faire pour mon profit, je n'ai qu'à mal faire en secret, la vertu n'a plus rien à me dire, et si je suis surprise en faute, on punira, comme à Sparte, non le délit, mais la maladresse. Enfin, que le caractère et l'amour du beau soient empreints par la nature au fond de mon âme, j'aurai ma règle aussi longtemps qu'il ne sera point défiguré. Mais comment m'assurer de conserver toujours dans sa pureté cette effigie intérieure qui n'a point parmi les êtres sensibles de modèle auquel on puisse la comparer? Ne sait-on pas que les affections désordonnées corrompent le jugement ainsi que la volonté, et que la conscience s'altère et se modifie insensiblement dans chaque siècle, dans chaque peuple, dans chaque individu, selon l'inconstance et la variété des préjugés? Adorez l'être éternel, mon digne et sage ami. D'un souffle, vous détruirez ces fantômes de raison qui n'ont qu'une vaine apparence et fuient comme une ombre devant l'immuable vérité. Rien n'existe que par celui qui est. C'est lui qui donne un but à la justice, une base à la vertu, un prix à cette courte vie employée à lui plaire. C'est lui qui ne cesse de crier aux coupables que leurs crimes secrets ont été vus et qui sait dire aux justes oubliés « Tes vertus ont un témoin ». C'est lui, c'est sa substance inaltérable, qui est le vrai modèle des perfections dont nous portons tous une image en nous-mêmes. Nos passions ont beau la défigurer, tous ces traits liés à l'essence infinie se représentent toujours à la raison et lui servent à rétablir ce que l'imposture et l'erreur en ont altéré. Ces distinctions me semblent faciles, le sens commun suffit pour les faire. Tout ce qu'on ne peut séparer de l'idée de cette essence est Dieu, tout le reste est l'ouvrage des hommes. C'est à la contemplation de ce divin modèle que l'âme s'épure et s'élève, qu'elle apprend à mépriser ses inclinations basses et à surmonter ses vils penchants. Un cœur pénétré de ces sublimes vérités se refuse aux petites passions des hommes. Cette grandeur infinie le dégoûte de leur orgueil, le charme de la méditation l'arrache aux désirs terrestres, et quand l'être immense dont il s'occupe n'existerait pas, il serait encore bon qu'il s'en occupât sans cesse pour être plus maître de lui-même, plus fort, plus heureux et plus sage. Cherchez-vous un exemple sensible des vains sophismes d'une raison qui ne s'appuie que sur elle-même? Considérons de sang-froid les discours de vos philosophes, dignes apologistes du crime, qui ne séduisirent jamais que des cœurs déjà corrompus. Ne dirait-on pas qu'en s'attaquant directement au plus saint et au plus solennel des engagements, ces dangereux raisonneurs ont résolu d'anéantir d'un seul coup la société humaine, qui n'est fondée que sur la foi des conventions? Mais voyez, je vous prie, comme ils disculpent un adultère secret. C'est, disent-ils, qu'il n'en résulte aucun mal, pas même pour l'époux qui l'ignore, comme s'il pouvait être sûr qu'il l'ignorera toujours, comme s'il suffisait, pour autoriser le parjure et l'infidélité, qu'il ne nuisisse pas à autrui, comme si ce n'était pas assez pour abhorrer le crime du mal qu'il fait à ceux qui le commettent. Quoi donc? Ce n'est pas un mal de manquer de foi, d'anéantir autant qu'il est en soi la force du serment et des contrats les plus inviolables? Ce n'est pas un mal de se forcer soi-même à devenir fourbe et menteur? Ce n'est pas un mal de former des liens qui vous font désirer le mal et la mort d'autrui, la mort de celui-même qu'on doit le plus aimer et avec qui l'on a juré de vivre? Ce n'est pas un mal qu'un état dont mille autres crimes sont toujours le fruit? Un bien qui produirait tant de maux serait par cela seul un mal lui-même. L'un des deux penserait-il être innocent parce qu'il est libre peut-être de son côté et ne manque de foi à personne? Il se trompe grossièrement. Ce n'est pas seulement l'intérêt des époux, mais la cause commune de tous les hommes que la pureté du mariage ne soit point altérée. Chaque fois que deux époux s'unissent par un nœud solennel, il intervient un engagement tacite de tout le genre humain de respecter ce lien sacré, d'honorer en eux l'union conjugale. Et c'est, ce me semble, une raison très forte contre les mariages clandestins qui, n'offrant nul signe de cette union, expose des cœurs innocents à brûler d'une flamme adultère. Le public est en quelque sorte garant d'une convention passée en sa présence, et l'on peut dire que l'honneur d'une femme pudique est sous la protection spéciale de tous les gens de bien. Ainsi, quiconque ose la corrompre pêche, premièrement parce qu'il la fait pécher, et qu'on partage toujours les crimes qu'on fait commettre. Il pêche encore directement lui-même, parce qu'il viole la foi publique et sacrée du mariage, sans lequel rien ne peut subsister dans l'ordre légitime des choses humaines. Le crime est secret, disent-ils, et il n'en résulte aucun mal pour personne. Si ces philosophes croient l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, peuvent-ils appeler un crime secret celui qui a pour témoin le premier offensé et le seul vrai juge? Étrange secret que celui qu'on dérobe à tous les yeux, hors ceux à qui l'on a le plus d'intérêt à le cacher. Quand même ils ne reconnaîtraient pas la présence de la divinité, comment osent-ils soutenir qu'ils ne font de mal à personne? Comment prouve-t-il qu'il est indifférent à un père d'avoir des héritiers qui ne soient pas de son sang? d'être chargé peut-être de plus d'enfants qu'il n'en aurait eu, et forcé de partager ses biens au gage de son déshonneur, sans sentir pour eux des entrailles de père. Supposons ces raisonneurs matérialistes. On n'en est que mieux fondé à leur opposer la douce voix de la nature, qui réclame au fond de tous les cœurs contre une orgueilleuse philosophie et qu'on n'attaqua jamais par de bonnes raisons. En effet, si le corps seul produit la pensée et que le sentiment dépende uniquement des organes, deux êtres formés d'un même sang ne doivent-ils pas avoir entre eux une plus étroite analogie, un attachement plus fort l'un pour l'autre et se ressembler d'âme comme de visage, ce qui est une grande raison de s'aimer? N'est-ce donc faire aucun mal, à votre avis, que d'anéantir ou troubler par un sang étranger cette union naturelle et d'altérer dans son principe l'affection mutuelle qui doit lier entre eux tous les membres d'une famille? Y a-t-il au monde un honnête homme qui n'eût horreur de changer l'enfant d'un autre en nourrice, et le crime est-il moindre de le changer dans le sein de la mère? Si je considère mon sexe en particulier, que de maux j'aperçois dans ce désordre qu'ils prétendent ne faire aucun mal? Ne fût-ce que l'avilissement d'une femme coupable, à qui la perte de l'honneur ôte bientôt toutes les autres vertus, que d'indices trop sûrs pour un tendre époux d'une intelligence qu'il pense justifiée par le secret, ne fût-ce que de n'être plus aimé de sa femme, que fera-t-elle avec ses soins artificieux que mieux prouver son indifférence? Est-ce l'œil de l'amour qu'on abuse par de feintes caresses? Et quel supplice auprès d'un objet chéri, de sentir que la main nous embrasse et que le cœur nous repousse. Je veux que la fortune seconde une prudence qu'elle a si souvent trompée. Je compte un moment pour rien la témérité de confier sa prétendue innocence et le repos d'autrui à des précautions que le ciel se plaît à confondre. Que de fausseté, que de mensonges, que de fourberies pour couvrir un mauvais commerce, pour tromper un mari, pour corrompre des domestiques, pour en imposer au public. Quel scandale pour des complices, quel exemple pour des enfants! Que devient leur éducation parmi tant de soins pour satisfaire impunément de coupables feux? Que devient la paix de la maison et l'union des chefs? Quoi? Dans tout cela l'époux n'est point lésé? Mais qui le dédommagera d'un cœur qui lui était dû? Qui lui pourra rendre une femme estimable? Qui lui donnera le repos et la sûreté? Qui le guérira de ses justes soupçons? Qui fera confier un père au sentiment de la nature en embrassant son propre enfant? À l'égard des liaisons prétendues que l'adultère et l'infidélité peuvent former entre les familles, c'est moins une raison sérieuse qu'une plaisanterie absurde et brutale qui ne mérite pour toute réponse que le mépris et l'indignation. Les trahisons, les querelles, les combats, les meurtres, les empoisonnements, dont ce désordre a couvert la terre dans tous les temps, montrent assez ce qu'on doit attendre pour le repos et l'union des hommes d'un attachement formé par le crime. S'il résulte quelque sorte de société, de ce vil et méprisable commerce, elle est semblable à celle des brigands qu'il faut détruire et anéantir pour assurer les sociétés légitimes. J'ai tâché de suspendre l'indignation que m'inspirent ces maximes pour les discuter paisiblement avec vous. Plus je les trouve insensées, moins je dois dédaigner de les réfuter, pour me faire honte à moi-même de les avoir peut-être écoutées avec trop peu d'éloignement. Vous voyez combien elle supporte mal l'examen de la saine raison. Mais où chercher la saine raison, sinon dans celui qui en est la source, et que penser de ceux qui consacrent à perdre les hommes ce flambeau divin qu'il leur donna pour les guider? Défions-nous d'une philosophie en parole, défions-nous d'une fausse vertu qui sape toutes les vertus, et s'applique à justifier tous les vices pour s'autoriser à les avoir tous. Le meilleur moyen de trouver ce qui est bien et de le chercher sincèrement, et l'on ne peut longtemps le chercher ainsi, sans remonter à l'auteur de tout bien. C'est ce qu'il me semble avoir fait, depuis que je m'occupe à rectifier mes sentiments et ma raison. C'est ce que vous ferez mieux que moi, quand vous voudrez suivre la même route. Il m'est consolant de songer que vous avez souvent nourri mon esprit des grandes idées de la religion, et vous, dont le cœur n'a rien de caché pour moi, ne m'en eussiez pas ainsi parlé si vous aviez eu d'autres sentiments. Il me semble même que ces conversations avaient pour nous des charmes. La présence de l'être suprême ne nous fut jamais importune. Elle nous donnait plus d'espoir que d'épouvante. Elle n'effraya jamais que l'âme du méchant. Nous aimions à l'avoir pour témoin de nos entretiens, à nous révéler conjointement jusqu'à lui. Si quelquefois nous étions humiliés par la honte, nous nous disions en déplorant nos faiblesses. Au moins, Il voit le fond de nos cœurs, et nous en étions plus tranquilles. Si cette sécurité nous égara, c'est au principe sur lequel elle était fondée à nous ramener. N'est-il pas bien indigne d'un homme de ne pouvoir jamais s'accorder avec lui-même, d'avoir une règle pour ses actions, une autre pour ses sentiments, de penser comme s'il était sans corps, d'agir comme s'il était sans âme, et de ne jamais approprier à soi tout entier rien de ce qu'il fait en toute sa vie? Pour moi, je trouve qu'on est bien fort avec nos anciennes maximes quand on ne les borne pas à de vaines spéculations. La faiblesse est de l'homme, et le Dieu clément qui le fit la lui pardonnera sans doute, mais le crime est du méchant et ne restera point impuni devant l'auteur de toute justice. Un incrédule, d'ailleurs heureusement né, se livre aux vertus qu'il aime. Il fait le bien par goût et non par choix. Si tous ses désirs sont droits, il les suit sans contrainte. Il les suivrait de même s'il ne l'était pas, car pourquoi se gênerait-il? Mais celui qui reconnaît et sert le père commun des hommes se croit une plus haute destination. L'ardeur de la remplir anime son zèle, et, suivant une règle plus sûre que ses penchants, il sait faire le bien qui lui coûte et sacrifier les désirs de son cœur à la loi du devoir. Tel est, mon ami, le sacrifice héroïque auquel nous sommes tous deux appelés. L'amour qui nous unissait eût fait le charme de notre vie. Il survécut à l'espérance, il brava le temps et l'éloignement, il supporta toutes les épreuves. Un sentiment si parfait ne devait point périr de lui-même. Il était digne de n'être immolé qu'à la vertu. Je vous dirai plus. Tout est changé entre nous. Il faut nécessairement que votre cœur change. Julie de Volmar n'est plus votre ancienne Julie. La révolution de vos sentiments pour elle est inévitable, et il ne vous reste que le choix de faire honneur de ce changement au vice ou à la vertu. J'ai dans la mémoire un passage d'un auteur que vous ne récuserez pas. L'amour, dit-il, est privé de son plus grand charme quand l'honnêteté l'abandonne. Pour en sentir tout le prix, il faut que le cœur s'y complaise et qu'il nous élève en élevant l'objet aimé. Ôtez l'idée de la perfection, vous ôtez l'enthousiasme, ôtez l'estime, et l'amour n'est plus rien. Comment une femme honorera-t-elle un homme qu'elle doit mépriser? Comment pourra-t-il honorer lui-même celle qui n'a pas craint de s'abandonner à un vil corrupteur? Ainsi bientôt, ils se mépriseront mutuellement. L'amour, ce sentiment céleste, ne sera plus pour eux qu'un honteux commerce. Ils auront perdu l'honneur et n'auront point trouvé la félicité. Voilà notre leçon, mon ami, c'est vous qui l'avez dictée. Jamais nos cœurs s'aimèrent-ils plus délicieusement, et jamais l'honnêteté leur fut-elle aussi chère que dans le temps heureux où cette lettre fut écrite. Voyez donc à quoi nous mèneraient aujourd'hui de coupables feux nourris aux dépens des plus doux transports qui ravissent l'âme. L'horreur du vice qui nous est si naturelle à tous deux s'étendrait bientôt sur le complice de nos fautes. Nous nous haïrions pour nous être trop aimés, et l'amour s'éteindrait dans les remords. Ne vaut-il pas mieux épurer un sentiment si cher pour le rendre durable? Ne vaut-il pas mieux en conserver au moins ce qui peut s'accorder avec l'innocence? N'est-ce pas conserver tout ce qu'il eut de plus charmant? Oui, mon bon et digne ami, pour nous aimer toujours, il faut renoncer l'un à l'autre. Oublions tout le reste, et soyez l'amant de mon âme. Cette idée est si douce qu'elle console de tout. Voilà le fidèle tableau de ma vie, et l'histoire naïve de tout ce qui s'est passé dans mon cœur. Je vous aime toujours, n'en doutez pas. Le sentiment qui m'attache à vous est si tendre et si vif encore, qu'une autre en serait peut-être alarmée. Pour moi, j'en connus un trop différent pour me défier de celui-ci. Je sens qu'il a changé de nature, et du moins en cela, mes fautes passées fondent ma sécurité présente. Je sais que l'exacte bienséance et la vertu de parade exigeraient davantage encore, et ne seraient pas contente que vous ne fussiez tout à fait oubliée. Je crois avoir une règle plus sûre, et je m'y tiens. J'écoute en secret ma conscience. Elle ne me reproche rien, et jamais elle ne trompe une âme qui la consulte sincèrement. Si cela ne suffit pas pour me justifier dans le monde, cela suffit pour ma propre tranquillité. Comment s'est fait cet heureux changement? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que je l'ai vivement désiré. Dieu seul a fait le reste. Je penserai qu'une âme, une fois corrompue, l'est pour toujours, et ne revient plus au bien d'elle-même. À moins que quelque révolution subite, quelque brusque changement de fortune et de situation, ne change tout à coup ses rapports, et par un violent ébranlement, ne l'aide à retrouver une bonne assiette. Toutes ses habitudes étant rompues et toutes ses passions modifiées, dans ce bouleversement général, on reprend quelquefois son caractère primitif et l'on devient comme un nouvel être sorti récemment des mains de la nature. Alors le souvenir de sa précédente bassesse peut servir de préservatif contre une rechute. Hier, on était abject et faible. Aujourd'hui, l'on est fort et magnanime. En se contemplant de si près dans deux états si différents, on en sent mieux le prix de celui où l'on est remonté et l'on en devient plus attentif à s'y soutenir. Mon mariage m'a fait éprouver quelque chose de semblable à ce que je tâche de vous expliquer. Ce lien si redouté me délivre d'une servitude beaucoup plus redoutable et mon époux m'en devient plus cher pour m'avoir rendu à moi-même. Nous étions trop unis, vous et moi, pour qu'en changeant d'espèce notre union se détruise. Si vous perdez une tendre amante, vous gagnez une fidèle amie. Et quoi que nous en ayons pu dire durant nos illusions, je doute que ce changement vous soit désavantageux. Tirez-en le même parti que moi, je vous en conjure, pour devenir meilleur et plus sage, et pour épurer par des mœurs chrétiennes les leçons de la philosophie. Je ne serai jamais heureuse que vous ne soyez heureux aussi, et je sens plus que jamais qu'il n'y a point de bonheur sans la vertu. Si vous m'aimez véritablement, donnez-moi la douce consolation de voir que nos cœurs ne s'accordent pas moins dans leur retour au bien qu'ils s'accordèrent dans leur égarement. Je ne crois pas avoir besoin d'apologie pour cette longue lettre. Si vous m'étiez moins chère, elle serait plus courte. Avant de la finir, il me reste une grâce à vous demander. Un cruel fardeau me pèse sur le cœur. Ma conduite passée est ignorée de Monsieur de Volmar, mais une sincérité sans réserve fait partie de la fidélité que je lui dois. J'aurais déjà 100 fois tout avoué, vous seul m'avez retenu. Quoique je connaisse la sagesse et la modération de Monsieur de Volmar, c'est toujours vous compromettre que de vous nommer, et je n'ai point voulu le faire sans votre consentement. Serait-ce vous déplaire que de vous le demander, et aurais-je trop présumé de vous ou de moi en me flattant de l'obtenir? Songez, je vous supplie, que cette réserve ne saurait être innocente, qu'elle m'est chaque jour plus cruelle, et que, jusqu'à la réception de votre réponse, je n'aurai pas un instant de tranquillité. »